Et quelle joie de partager cette parole qui est la parole de Dieu. Et on ne s'est pas concerté avec Reina, mais je remarque que deux ou trois choses de ce qu'il partageait va sortir de ce que je vais partager ce matin. Tout d'abord, j'aimerais lire la parole de Dieu parce que c'est la base de ce dont nous allons voir. Et puis ensuite, on va voir deux vidéos. Mais d'abord, tout d'abord, lisons la Bible qui est la base de ce dont nous allons partager ce matin. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Seigneur, merci pour ce moment que nous passons ensemble à te louer, t'élever, t'exalter et te glorifier. Tu es le plus précieux pour nous. Et nous sommes précieux aussi à tes yeux. Nous prions que ce matin, tu puisses nous conduire, nous diriger dans tout ce que nous allons partager. Que ce soit pour ta gloire, que ce soit pour nous préparer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Jacob, tu veux lire pour nous, s'il te plaît, Apocalypse 13. Tu veux un micro?
Tout le chapitre 13. Chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçut une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666.
Merci Jacob. Dans le corps du Christ, il y a trois courants de pensée, principalement, sur la question de ce qu'on appelle la grande tribulation, c'est-à-dire au moment qui va venir où l'Église va être persécutée sévèrement. Il y en a qui croient que ce qu'on appelle la grande tribulation, l'Église va être enlevée avant cette grande tribulation, c'est-à-dire que l'Église ne va pas voir la grande tribulation. Une autre pensée qui croit que c'est au milieu de cette grande tribulation que l'Église va être enlevée par le Seigneur. Une autre pensée croit que c'est à la fin de cette grande tribulation que le Seigneur viendra pour enlever l'Église. Ce qui est certain est que tous les trois croient qu'un moment viendra qu'on appelle la grande tribulation. Et c'est ce qui est important. Soit on croit que l'Église va être enlevée avant, au milieu ou après, on est tous d'accord qu'un moment viendra qu'on appelle la grande tribulation. Je ne sais pas qui d'entre nous ici a regardé le journal de 20 heures de TF1 le 30 décembre. 30 décembre, le journal de 20 heures de TF1, qui l'a regardé? Personne? C'est quelqu'un, ils ont présenté la technologie d'ici 2029. Et ils ont dit qu'en 2029, celui qui disait qu'il serait tatoué, un tatouage connecté. Quelqu'un a suivi ça? Hein? Non? Tu es au courant? Un tatouage qui serait connecté. D'ici 2029, ça veut dire seulement dans 10 ans, hein? J'ai lu par Portes Ouvertes que, en fait, peut-être que ce serait bien de citer exactement ce que dit Portes Ouvertes par rapport au Corée du Nord. Il dit, avant 1945, il y avait environ 500 000 chrétiens en Corée du Nord. Pyongyang, la capitale actuelle, était surnommée la Jérusalem de l'Orient. En 1955, donc juste 10 ans après, toute trace visible du christianisme a été effacée. En seulement 10 ans, la Corée du Nord est passée d'un pays où il y avait beaucoup de chrétiens et qui la capitale Pyongyang était appelée la Jérusalem de l'Orient, à un pays où toute trace visible du christianisme a été effacée. Comme ça allait être dommage si les missionnaires n'avaient pas préparé l'Église à ce que allait venir. Je pense que soit qu'on croit que la tribulation ou la grande tribulation vient avant, au milieu ou après, ou plutôt que l'enlèvement, ça sera avant la tribulation, au milieu ou après, je pense qu'il est bien que l'Église soit préparée pour ce que vient sur la terre. J'ai juste deux vidéos. Ils sont longs, surtout le premier. On ne va pas regarder tout, mais on va regarder juste une première partie et puis le deuxième également, en deuxième partie. S'il vous plaît. Ça ressemble à l'image de
le meilleur des mondes, vous pouvez devenir un humain augmenté. Pour vous transformer en cyborg, c'est tout bête, un petit implant électronique sous la peau et le tour est joué.
Aïe, mais tu me penses !
Ah bah oui, tu vas le sentir un peu, hein.
Stockholm, capitale des humains augmentés. Dans les rues de la métropole et dans toute la Suède, il y a déjà 3000 personnes équipées d'un implant numérique, une puce électronique insérée sous la peau avec leurs données personnelles. Clara Grelson est l'une de ces Suédoises bioniques. Il est midi, elle fonce au club de gym et déverrouille le portique sans même le toucher.
Je n'ai pas à prendre ma carte de gym ou mon portefeuille. C'est super pratique.
Pas la peine d'éplucher son sac pour y piocher téléphone, portefeuille ou clé. De retour dans l'agence de marketing qu'elle dirige, Clara n'a toujours pas besoin de badge. Le même geste nonchalant du poignet.
Salut, ça va ?
On peut passer au deuxième, s'il vous plaît.
On peut presque le voir, là, sous la...
Tell me which Obama here is real.
To help families refinance their homes, to invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs.
Anyone? The answer is none of them.
Merci. Le deuxième, c'est juste une image... Quelqu'un qui présente le fait qu'on peut animer des images. Et Apocalypse 13, qu'on vient de lire, a parlé de ces deux choses qu'on vient de voir. Regardez, au verset 15. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Je ne dis pas que Obama est l'antéchrist, excusez-moi. Quelqu'un a présenté tout simplement... Son invention, c'est quelqu'un qui présentait son invention pour dire qu'on peut animer une image pour faire parler, pour faire dire des choses, tout simplement. Mais on voit que la technologie d'animer une image est déjà là. Et la Bible en a parlé il y a 2000 ans. Il y a presque 2000 ans, la Bible a parlé de cette technologie qu'on voit aujourd'hui. Il fut donné à d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Et puis, deuxième chose qu'on voit qui se passe maintenant, et que selon ce journal de TF1, dans 2029, ça sera un tatouage connecté. Il dit... Et que nul ne puisse acheter ni vendre, plutôt verset 16, elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Je pense que, en tant qu'Église, nous devons être conscients de ce que se dessine. Et nous devons être préparés à cela. Beaucoup de pays ont connu, ont passé d'un pays libre, ouvert à l'Évangile, à un moment de persécution atroce. La Chine en est exemple. La Corée du Nord. Il n'y a pas un pays sur cette terre où les chrétiens sont atrocement persécutés comme la Corée du Nord. C'est incroyable. Et s'ils n'avaient pas été préparés à ça? Alors, moi je crois que nous devons être préparés en tant qu'Église pour ce que va arriver. Si certains pensent que tout cela va arriver après que l'Église est partie, gloire à Dieu, quand même, on est préparé. Si ça vient et on est là, on est prêt pour ça. Regardez toujours Apocalypse 13, ce qu'il dit au verset 7. verset 7, il dit, « Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Donc, ce moment-là, il y aura des saints sur la terre. Et les saints, c'est les chrétiens. Ce n'est pas les saints qu'on proclame. C'est une église que c'est tout simplement après des années qu'on le proclame saint. Les saints, c'est tous ceux qui sont lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes les saints, selon la Bible. Paul, à chaque fois qu'il écrit son épître, il adresse son épître aux saints de telle ville-là. Donc, nous sommes les saints. Et cette période qu'on voit, on voit que cet antéchrist ou la bête va faire la guerre contre les saints. Donc, il y aura des chrétiens sur cette terre. Ce qui équivaut à dire qu'il nous faut être prêts pour ce moment que nous allons vivre. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus nous dit que nous devons discerner carrément le temps que nous vivons. Matthieu chapitre 16. Si vous voulez ouvrir avec moi vos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. » Ce qui équivaut à dire que Jésus nous encourage à pouvoir discerner le signe des temps, discerner ce qui va arriver. Alors, ça va vite. En Suède, on a vu déjà, ça se passe. Et ce vidéo, vous pouvez le trouver sur l'Internet si vous voulez bien. Ce canal, je pense que c'est canal qui a fait ce documentaire, vous pouvez le trouver, il regarde jusqu'à la fin. Il faut que ça soit, ça va plus loin que la Suède. Et en France, on parle d'un tatouage connecté. C'est impressionnant de remarquer ces dernières années l'évolution des choses. Quand on arrivait en France, il y a 9 ans et demi maintenant, presque chaque magasin acceptait le chèque. Aujourd'hui, plusieurs disent non, pas de chèque. Soit ça part cash ou par la carte bancaire. Ce qui veut dire que on peut presque pas vivre aujourd'hui dans ce pays-là sans avoir une carte bancaire. Presque pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas une carte bancaire? Levez la main. Vous n'avez pas une carte bancaire? Non? Vous voyez? Tout le monde ici a une carte bancaire. Daniel, c'est dangereux, hein? Et si maintenant on dit, OK, on supprime la carte bancaire, ça sera sur la peau. On ne peut ni acheter, ni vendre. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais ça peut être qu'on dit que la carte bancaire, c'est obsolète, c'est démodé. On passe à autre chose. Qui sait ce qui va venir?
Le gouvernement veut supprimer le cash maintenant.
Oui. Merci. Donc, si on supprime les cash et puis on supprime les cartes bancaires, ce qui reste encore? Je pense que l'Église doit être préparée à ce qui arrive. On doit être préparé. On ne doit pas juste dire que non, ça ne concerne pas. On doit être préparé à ce qui arrive. Parce que Jésus nous dit carrément que nous devons discerner le signe de temps. Discerner le signe de temps. Et puis quand on lit qu'il fut donné, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, ça veut dire qu'il y aura des saints sur cette terre. Et Jésus l'a décrit dans Matthieu chapitre 24. Regardons ensemble Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, du verset 21 à 22. Si vous n'avez jamais lu Matthieu 24, ou même si vous l'avez lu, je vous encourage cette semaine peut-être, trouve le temps pour vraiment lire et bien lire Matthieu chapitre 24, parce que Jésus parle de ces choses dont nous sommes en train de dire. Et c'est Jésus lui-même qui en parle, le Seigneur, le Maître, le Roi lui-même qui en parle. Matthieu 24, 21 à 22. Jésus dit, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus. Donc, il y aura des élus sur cette terre-là. Et à cause d'eux, ces jours seront abrégés. Dans Luc, chapitre 21 et verset 28, Luc 21, 28, Jésus qui parle encore et il dit, « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Donc, quand ce moment commence à arriver, quand on commence à voir ces choses-là, ce n'est pas le moment de baisser la tête, c'est plutôt le moment de se redresser et de lever la tête. Le moment approche. Le temps approche pour que notre roi des rois vienne. J'ai beaucoup aimé la prière de Ruth Ellen. Il est roi. Notre roi est sur le point d'arriver. Matthieu 24 toujours. Matthieu 24 est de verset 29 à 31. Matthieu 24. Je vais le faire vite parce que je ne veux pas m'attarder sur ces choses-là qui vont arriver. Je veux plutôt m'attarder sur ce que nous devons faire comme enfants de Dieu. Matthieu 24, 29 à 31, il dit, « Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Mais remarquez que, il dit aussitôt après ces jours de tribulation, ceci va se passer. Et souvent, le verset 31 est vrai, c'est ce que Paul le dit. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. Paul donc explique aussi clairement ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ses paroles. Amen. Alors, ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens, Jésus l'a dit dans Matthieu 24, où il dit, il verra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Mais au 29, il dit, ça va se passer aussitôt après ces jours de tribulation. Alors, toujours Matthieu 24, verset 32 à 33, il dit, « Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Le Fils de l'homme est proche à la porte. Il vient. Dans 1 Pierre chapitre 4 et le verset 7, 1 Pierre 4, 7, Pierre dit, « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. » Mon intention n'est pas de nous effrayer de ce qui va arriver, mais plutôt que nous soyons prêts de nous préparer. Alors, que devons-nous faire en tant que chrétiens
pour être prêt à ce moment qui arrive. Parce que ça va arriver. Que devons-nous faire? La première chose, nous devons avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Ne nous contentons pas de tout simplement dire « Oui, je suis chrétien » et puis on vient dimanche matin et puis après c'est fini. Certains chrétiens, ils ouvrent leur Bible que dimanche matin. Et puis ensuite, c'est fermé jusqu'à dimanche prochain. C'est dommage. Ça ne doit pas être ainsi. Ce que Jésus cherche, c'est d'avoir une vie d'intimité avec nous. Dans Matthieu chapitre 7, souvent ce passage est utilisé pour dénoncer des gens, pour dire que oui, Jésus a dit que il va renvoyer des gens qui font des miracles et tout ça. Mais l'accent n'est pas là. L'accent, c'est Jésus dit là-bas qu'il dit qu'il va dire aux gens, je ne vous connais pas. C'est là que je vois plutôt où est l'accent. Je ne vous connais pas. Ce qui veut dire qu'on peut faire des miracles en son nom, on peut faire de grandes choses en son nom, et pourtant, il ne nous connaît pas parce qu'on n'a pas eu d'intimité avec lui. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, versets 22 à 23. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, ce que Jésus cherche, c'est des gens qu'il connaît. C'est des gens avec qui il a de l'intimité. Il y a plein de gens dans ce monde, il y en a, je ne connais pas, ils ne me connaissent pas. On n'a pas d'intimité. Certaines personnes, on dit bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous connaissez tel? Oui, mais. C'est un oui, mais. Parce que connaître, c'est vraiment, connaître, c'est plus fort que le mot, juste simplement bonjour, bonjour. C'est pas un bonjour avec Jésus. C'est une intimité. Et ce mouvement qui vient sur la terre, ce n'est pas tout simplement une vie chrétienne superficielle qui suffit. Il faut une vie chrétienne qui est profonde avec le Seigneur. Il faut quelqu'un qui entretient une relation personnelle avec Jésus. On peut sembler être en train d'exagérer, c'est ça. Mais frères et sœurs, mes amis, ce mouvement qui vient sur la terre, celui qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur, il ne pourra pas subsister. La seule chose qui va nous permettre de traverser ce moment vainqueur, c'est que nous ayons une intimité profonde avec le Seigneur. C'est que chaque jour, nos Bibles soient ouvertes, non simplement un dimanche matin. Parce que même des gens qui font des miracles en son nom, mais qui n'ont pas d'intimité avec lui, il va leur dire, je ne vous connais pas. Ce qui veut dire que Jésus cherche des gens qu'il connaît. Des gens qui le connaissent et des gens qui le connaissent. La vie chrétienne n'est pas ce n'est pas de la religion. C'est une vie, une marche avec Jésus. Jésus veut marcher personnellement avec toi. Ce n'est même pas une question de mon père ou ma mère. Non. C'est une question de avec toi-même. Et toi? Et toi? Jésus veut une vie d'intimité avec nous. Je ne peux pas exagérer là-dessus. Parce que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte pour Jésus. C'est ça à quoi il s'attache. Que entre toi et lui, entre moi et lui, qu'il y ait une relation personnelle, intime. Où chaque matin, je pense que Ruth Ellen qui a dit, où chaque matin je fléchis le genou, ou bien, en tout cas, je parle avec lui, je communique avec lui. Et lui, il communique avec moi au travers de sa parole. Moi, je lui parle avec ma bouche. Lui, il me parle au travers de sa parole. Oui, il peut me parler dans mon cœur. Oui, il peut me parler par les circonstances et autre chose. Mais principalement au travers de sa parole écrite. Donc, ayons nos Bibles ouvertes tous les jours. Pas simplement les dimanches matins. Deuxième chose, que devons-nous faire? Nous devons avoir une église qui est soudée. Donc, d'abord, relation soudée avec lui et une église soudée entre nous. Et quand je parle d'église, ça ne se limite pas tout simplement à une assemblée. Je parle du corps du Christ. Parce que ce moment qui vient, nous avons besoin des uns des autres. Dis à celui qui est assis avec toi, j'ai besoin de toi. Dis-le, tu as besoin de toi. Et c'est la vérité. Ça ne serait pas une question de solo. On a besoin des uns des autres pour pouvoir traverser ce moment-là. Mes enfants, surtout l'aîné, il aime beaucoup regarder des émissions sur les animaux. Et parfois, quand je le trouve, je regarde ça avec lui. Et quelquefois, quand il regarde des choses sur les pingouins, tu sais, au pôle non, le pingouin, quand ça souffle fort, le froid souffle fort, hein, et avec le vent et tout ça, qu'est-ce que font les pingouins? Qui c'est? Ils se serrent entre eux. Ils se serrent. Celui qui se met à l'écart tout seul, qu'est-ce que va lui arriver? Ils se mettent ensemble. Ce froid-là que inimaginable. Oui? Pardon? Ils tournent aussi. Oui? Ils ont besoin des uns des autres. On a besoin d'une église soudée pour traverser ces moments qui viennent. Hébreux chapitre 12 nous le dit exactement cela. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, lisons de versets 12 à 15. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Une église soudée. Pas d'amertume. Les uns envers les autres. Ça infecte. Ça infecte. Ça affecte les uns les autres. Une église où vraiment nous recherchons la paix. On poursuit la paix. Ça serait dommage d'arriver au ciel. Et je cherche des histoires avec Jacob et puis après on se retrouve au ciel. Et puis au ciel, ma maison est juste à côté de sa maison. Oh là là, Dieu, tu ne peux pas changer le lieu là. Il dit non, non, non. On a vécu sur cette terre des histoires et puis on se retrouve côte à côte au ciel. Non, ça passe la vie chrétienne. Dieu veut que nous recherchions la paix. Arrêtons toutes ces critiques, amertume, rancune, toutes ces animosités, calomnies. Arrêtons cela. Arrêtons ça. Ça sera honteux d'arriver au ciel. Et que celui que tu critiques et tu calomnies tout le temps, c'est ton voisin en fait. Et Dieu, je pense qu'il peut le faire. Hein? Celui que tu n'aimes pas là, il va être ton voisin au ciel. Tu vas apprendre à aimer au ciel. Apprenons à aimer dès maintenant sur cette terre. Une église soudée, nous avons besoin des uns des autres pour pouvoir arriver à traverser ce moment difficile. Nous avons besoin de marcher dans la sanctification. Il dit ici, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ça l'Église que Jésus vient pour chercher. Une église qui est sanctifiée. Ça ne veut pas dire que je vais vivre une vie où jamais je vais tomber dans le péché, mais ça veut dire que je vis sous le sang de Jésus. Je vis continuellement sous la couverture du sang de Jésus. Si je tombe, je demande pardon et je suis lavé. Alléluia. Je vis perpétuellement sous la couverture du sang de Jésus. Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu. Par quoi? Par le sang de l'agneau. Une vie qui est vécue continuellement sous le sang de Jésus. En anglais, on dit, keep short account. Ne laisse pas le péché endurcir dans ton cœur avant de le confesser. Dès que tu vois que tu es tombé, demande pardon à Dieu. Une vie de sanctification. Matthieu 24, versets 12 à 13. Matthieu 24. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons faire pour rester vainqueurs pendant ce temps difficile qui vient sur la terre. Matthieu 24, 12 à 13 dit, « Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. C'est pas celui... En fait, la vie chrétienne, c'est pas un sprint. Dans le monde athlétisme, mondialement, qui est le plus célébré? C'est celui qui gagne le 100 mètres, n'est-ce pas? Celui qui devient le plus connu, le plus célébré. Moi, je préfère celui qui a fait marathon. 100 mètres, c'est facile à faire 100 mètres. Mais marathon, je ne pense pas que Usain Bolt peut gagner un marathon. Il ne peut pas tenir. La vie chrétienne est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas 50 mètres. Ce n'est pas 100 mètres, ce n'est pas 200 mètres, ce n'est même pas 1500 mètres. C'est un marathon. Et dans un marathon, il faut persévérer. L'autre jour, j'étais en train de regarder une émission et l'émission où les gens ont présenté les oiseaux. Et je n'avais jamais remarqué, ça m'a impressionné, que les oiseaux, après une longue distance, quand ils atterrissent, ils ne sont pas essoufflés. Ils ne font pas... Ils atterrissent et puis, tranquille, ils disent, waouh, c'est vrai? Impressionnant. Ils font de longues distances, ils atterrissent et c'est bon, tout est calme. L'engin est éteint, tout est calme. Mais les hommes, n'importe qui, même le plus grand de, qui gagne le marathon, après un marathon, il est essoufflé. L'autre jour, quand j'en parle avec mes enfants, ils ont dit que ben, parfois, ils se couchent par terre, ils se crouent par terre. Ah oui? Parce que ça veut dire qu'ils ont persévéré jusqu'à arriver à la fin. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas senti la fatigue, si, mais ils ont persévéré. La persévérance. La vie chrétienne est un marathon, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Jésus a dit, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui vont être sauvés. Mon dernier point rejoint ce que la résolution de Rena. On ne s'est pas concerté, hein? Mais l'image qu'il a présentée de cette l'image Éphésiens 6, un peu comme la vidéo aussi présentée en image comme ça. Et mon dernier point rejoint sa deuxième résolution pour 2019. Matthieu 24 et le verset 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
alors viendra la fin. Je vais répéter ce passage-là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, 2019, comme Réna, ayons le courage de partager l'évangile. Non simplement en partager, mais soutenir aussi ceux qui partagent l'évangile. Il y a beaucoup de groupes qui œuvrent et qui travaillent parmi les chrétiens persécutés, comme Portes Ouvertes, comme la mission de Richard Wurmbrand et d'autres, qui vont là où nous ne pouvons pas aller peut-être, et qui ont besoin de notre soutien financier. Nous devons soutenir ces groupes-là. Parce que Jésus veut que l'évangile soit prêché à tout le monde, à toute création. Quand nous lisons Matthieu 28, il est question de l'évangile prêché à toutes les nations. Marc, il est question de à toute créature. Donc, Jésus veut que chaque personne sur cette terre, un jour donné, entend l'évangile. Cette responsabilité n'est pas simplement sur les épaules du pasteur. Nous avons pensé il y a longtemps que oui, ça c'est le travail du pasteur. Non, c'est faux. Ce n'est pas le travail du pasteur. En fait, Éphésiens chapitre 4, il dit que les cinq ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, ils sont là pour équiper l'Église pour l'œuvre du ministère. Peut-être on va le lire. Vous avez vu ça dans la Bible? Lisons-le. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Et puis, lisons ce passage. Et puis, après, je vais vous poser une question que j'aime poser ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 11. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service d'autres ministères et de l'édification du corps du Christ. Donc, en fait, le ministère ou le service, qui le fait dans ce contexte-là? Je vous pose une question. C'est l'Église. Ceux qui ont ces cinq dons, ils sont là pour équiper l'Église, pour faire le ministère. Le travail, bibliquement parlant, de ceux qui ont ces cinq ministères, c'est pour équiper l'Église, pour que l'Église fasse l'œuvre du ministère ou du service des rois. C'est à nous d'évangéliser nos milieux. C'est à nous de parler de Jésus à nos voisins, à nos camarades, à nos familles. C'est à nous. Comme Réna, ayons de cela comme résolution pour 2019 et au-delà. Nous devons partager l'évangile. La réalité est que beaucoup de gens qui nous entourent, ils souffrent. Ils ont besoin d'espoir. L'année dernière, une amie, quelqu'un que mon épouse a connu ici, a accompagné mon épouse au Sénégal. Elle est allée avec mon épouse au Sénégal. Et au Sénégal, elle était parmi les chrétiens, elle a assisté au culte et tout ça. Et combien elle a été touchée par ce moment-là. À son retour, elle et son mari sont allés en Italie. Et elle m'a envoyé ceci. Elle m'a dit, quand il devrait prendre la route, la voiture, elle les a retardés pendant une heure, parce qu'elle devait faire le bagage. Et cette une heure de retard-là les a sauvés le pont qui s'est écroulé en Italie. Il devrait passer par ce pont-là. Et ce retard les a sauvés. Ne pense pas que le voisin, l'ami là, n'a pas besoin de l'évangile. Chacun de nous a besoin de l'évangile. 2019, partageons l'évangile avec la famille. On n'a pas besoin de harceler. Il est question de sagesse. Trouver une occasion pour insérer l'évangile. Trouver des moments avec sagesse. Où est le bon moment pour amener de l'espoir dans ce contexte-là? Trouver une porte ouverte pour faire connaître l'évangile, la parole de Dieu. Aussi, soutenir ceux qui apportent l'évangile dans d'autres lieux difficiles. Ne soyons pas égoïstes. Ne gardons pas simplement notre argent pour nous et notre famille. Soutenir. Parfois, ce qu'on ne sait pas est que 10 euros, par exemple, si je donne 10 euros, et si 1000 personnes donnent 10 euros, ça fait combien déjà? Ça fait combien? 10 000. Donc, votre 10 euros peut sembler être petit. Mais si 1000 personnes en donnent 1000 euros, ça fait 10 000. 10 euros, ça fait 10 000. 10 000. Si 1000 personnes donnent 100 euros, ça fait combien? 10 personnes donnent chacun 100 euros. Ça fait combien? C'est les petites gouttes qui peuvent devenir un océan. Partager l'évangile, contribuer aussi, aider à apporter l'évangile au plus loin possible. Parce qu'il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Prions ensemble. Père, nous prions que tu nous prépares tout un chacun de nous par ta grâce. Nous voulons dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Prépare-nous par ta grâce à pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Nous voulons prier, prépare-nous toi-même. Prépare-nous pour ce moment qui vient sur la terre, afin que nous restions vainqueur. Et nous prions que tu nous aides aussi, nous-mêmes, à être des instruments entre tes mains pour apporter l'évangile, l'espoir à plusieurs personnes. Ici à Montpellier et même jusqu'aux extrémités de la terre. Par ce que nous pouvons donner ou faire. Béni sois-tu, Seigneur, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.